Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrot.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05, de retour dans les grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité. C'est une émission qui commence à 9h. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les deux premières heures, vous pouvez télécharger l'émission en podcast sur RMC, l'application RMC, rmcsport.fr. Bref, vous savez faire, c'est un véritable carton en podcast également. Toujours avec Marion Bartoli, Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Simon Dutin. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour des championnats du monde d'athlétisme qui se déroule actuellement à Eugene, aux États-Unis. L'athlète qui se cherche en vain des stars. Ce sport est-il devenu sans intérêt pour le grand public? À 11h, les GG sur le terrain, reportage autour de Thibaut Pinot sur les routes du Tour de France. Pourquoi le public français n'a Dieu que pour lui? Comprenez-vous la passion autour de Thibaut Pinot? Et puis 11h45, c'est votre moment. Vous devenez une grande gueule, vous venez interpeller les GG sur un thème du jour. Vous n'êtes pas d'accord, c'est très simple. Vous composez le 32-16. Un magnifique cadeau à gagner également dans les grandes gueules du sport. Nous vous offrons avec Alpine des places pour le samedi 23 et le dimanche 24 juillet pour le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard au Castellet. C'est votre dernière chance de gagner, de jouer, de remporter deux places. Au programme, Alpine vous offre l'accès aux loges privatives et un accès VIP à la Skybox juste au-dessus de la tribune Alpine et en face du virage Alpine. Bref, pour cette expérience unique, vous vous inscrivez en envoyant VIP au 732-16. VIP au 732-16, nous appellerons le vainqueur dans 45 minutes. Usain Bolt a dit un jour, il existait beaucoup de légendes avant moi, mais maintenant c'est mon heure.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
La course est là, de Renaud Lavillenie, le sprint, la vitesse.
Qu'est-ce que c'est?
Un autochtone.
Ah, record du monde! Record du monde!
Allons-nous-en avant que d'autres droïdes n'arrivent.
9.58, the world record score.
Il va résister, il va accélérer, attention au chrono.
Je n'ai pas assez pris, on parle un peu des plongeurs de gueux.
Record du monde!
Tu
t'es,
star.
Non, t'es
pas une star.
Si, je suis une star.
Je voudrais mettre autre chose.
Ça a plus 20 ans, maman.
Oh, la violence.
Depuis 5 ans, l'athlétisme mondial est à la recherche de sa nouvelle star. Depuis la retraite du Usain Bolt en 2017, aucun athlète n'a réussi à reprendre le flambeau et à porter ce sport dans la lumière à l'image du 100 mètres cette nuit lors de ses mondiaux aux États-Unis et ce triplé américain totalement inconnu du grand public. La musique qui fout les jetons est cette question. La musique va arriver dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, c'est dans le contrat.
C'est vrai qu'elle fout les jetons cette musique, hein.
Bien sûr.
On l'a jamais relevé quand même. Mais...
L'athlète a-t-elle encore un intérêt pour vous? Oui ou non? Marie Martineau.
Bah, du coup, la question que tu m'as posée, c'était athlétisme a-t-il devenu sans intérêt? Donc j'ai écrit non sur ma feuille, mais si tu me demandes, y a-t-il encore un intérêt à l'athlétisme, je vais te dire oui.
Ok, très bien.
Je ne sais pas si c'est clair.
Merci de partager ta réflexion. On n'y a rien compris. Marion Bartoli.
Oui, je dis oui.
Non.
Simon Dutin.
Je suis affligé par cette question, Jean-Christophe, je dois te l'avouer, je suis consterné.
Ça tombe bien, c'est une émission de débat. Sarah
oui,
Pitkowski.
Évidemment, donc oui, évidemment que ça a de l'intérêt.
Tu peux reposer la question parce que Marie, elle...
Je t'ai vite reçu.
L'athlète a-t-elle encore un intérêt pour vous?
Ah ben oui.
Oui, il n'y a pas de problème.
Oui.
Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Eugene, Aurélien Tiercin, aux États-Unis. Salut Aurélien, y a-t-il un engouement aux États-Unis pour ces mondiaux d'athlètes?
Il suffit d'ouvrir les journaux de sport aux États-Unis pour s'apercevoir que l'athlétisme track and field en version originale peine à passionner les Américains dans leur globalité. Bien sûr, la NFL, ligue de football américain, écrase tout dans les médias. Le basket, le baseball et même le golf passent devant les actualités athlées. Mais il faut dire que les Américains adorent les sports d'équipe, puisque même dans les allées du Hayward Field, on attend impatiemment les relais, notamment le 4x100 mètres où les Américains visent le record du monde. Et si l'athlète fait moins saliver, c'est que les épreuves reines manquent de leaders locaux, manque de leaders américains. On cherche toujours les héritiers de Carl Lewis, Michael Johnson ou Maurice Greene. Mais Nike, par exemple, investit toujours autant d'argent dans l'athlétisme et notamment dans ses mondiaux, près de 600 millions de dollars en comptant la rénovation du stade. Et le public de l'Oregon est un vrai public de connaisseurs, encourageant évidemment très fort leurs athlètes made in USA, mais en ovationnant par exemple la légende du marteau, le Polonais Pavel Fajdek, désormais 5 fois champion du monde de suite.
Merci beaucoup Aurélien pour ces précisions. Et l'athlète, un intérêt pour nous, évidemment, pour vous sur RMC Sport, grâce à Aurélien Tiercin. Vous suivez les épreuves toute la soirée et la nuit. Évidemment, il est affligé par cette question. Simon Dutin, tu commences.
Oui, parce que si effectivement, si on part du prisme Usain Bolt, on n'a jamais vu ça, c'est un ovni, on ne reverra jamais ça. Donc on arrête la conversation. C'était un showman, il avait une grande gueule, il était annoncé, il manquait un peu de technique, mais il était tellement supérieur aux autres qu'effectivement ce qu'il a accompli on le reverra jamais, donc point barre, on arrête les bêtises.
Mais on regardait d'autres effectivement athlètes autres que
Usain Bolt. Mais dans ce cas-là on va effectivement on se cherche des têtes d'affiche dans l'athlète, évidemment les têtes de gondole ça reste le 100 mètres, et effectivement à ce titre-là moi encore plus qu'à l'époque Usain Bolt, parce que moi j'ai jamais compris que l'intérêt d'une discipline repose sur l'ultra domination d'une méga star. Je considère que c'est quasiment dans les années 90 que c'était le plus excitant, quand c'était vraiment la fosse au lion, tu voyais les line-up du 100 mètres, Linford Christie, Dennis Mitchell, Leroy Burrell, John Drummond, Frankie Fredericks, ils pouvaient tous gagner, Bruni Surin, Donovan Bailey, c'était tous des stars les mecs, c'était vraiment des événements à chaque course. Tu rajoutes Mike Powell à la longueur, Jonathan Edwards, il y avait Cathy Freeman, il y avait effectivement...
C'est parfait, tu donnes de l'eau à mon moulin.
Non, mais je suis désolé. Oui,
mais maintenant qu'il le dit, j'ai les images qui collent à ces champions.
Ça reste...
Effectivement,
il faut laisser le temps se faire. L'autre, il a laissé un chantier, des braises, effectivement, des cendres même. Il faut reconstruire là-dessus. C'est difficile de passer derrière. Moi, je pense que le retour au premier plan des États-Unis, notamment ce triplé sur 100 mètres, c'est une bonne chose parce qu'ils ont toujours servi de locomotive dans ce sport. Et à côté de ça, il y a des jeunes loups, du Plantis à la perche ou à Rome sur le 400 et qui est un extraterrestre. Ça reste une Madeleine de Proust. Alors
JO, ça reste une Madeleine de Proust. Parce que c'est ça la question.
Les championnats du monde, moi j'ai regardé hier, on en parlait tout à l'heure, le concours de marteau, on a réussi à s'extasier, la fin du 10 000 mètres féminin, c'était hallucinant d'intensité, de suspense. Il y a à picorer partout, tu vas un coup au lancer, un coup au sautoir, un coup sur la piste, tu regardes la suite du 10 000, ça rappelle, je sais pas, les kermesses de quand on était gamin, tous les gamins font la course dans les cours de récré. Je veux dire, l'athlétisme, ça intéressera toujours.
Okay. Oui. Okay. Mario Bartoli, tu voulais répondre.
Mais non, mais en fait, exactement ce que tu as dit, Simon a porté de l'eau à mon moulin. Les images, enfin moi, de l'athlète, quand j'ai commencé à le suivre, c'était effectivement dans les fins des début des années 90, et j'étais scotchée à ma télé par des stars dont tu as cité les noms. Chez nous, en français, c'était Marie-Jo Perret qui nous accrochait à la télévision. Il y avait Hicham Elguerrouj aussi. Il n'y a pas forcément que les Américains ou que les Anglais, mais il y avait des stars qui, pour quelqu'un qui n'est pas forcément un grand initié de l'athlétisme et qui va suivre effectivement chaque grand meeting au-delà simplement des championnats du monde et des Jeux Olympiques, étaient des stars qui transcendaient au-delà de leur sport et qui donc attiraient un public de jeunes comme moi qui étaient simplement fans de sport de manière globale et générale et qui du coup adoraient voir ces champions effectivement voir s'ils allaient battre des records ou qui allait gagner, etc. Aujourd'hui, on a du mal à connaître les noms. Effectivement, tu me dis un triplé hier soir en 100 mètres. Tu vois, Fred Carlet, tu vas dans la rue aujourd'hui en France, tu dis Fred Carlet, je suis pas sûr qu'on te dise tout de suite c'est celui qui a gagné le 100 mètres. Tu dis Usain Bolt, tu dis Carl Lewis, tu dis Michael Johnson, tu sors des noms comme ça. Je pense que beaucoup de gens savent qui
parce
c'est.
Parce qu'il y a la carrière, parce que l'histoire a été écrite.
Mais c'est ça aujourd'hui qui fait que l'athlétisme, pour moi, me passionne beaucoup moins. Ouais. Alors oui, je vais suivre parce que je suis une fan de sport et que voilà, pour moi, c'est pas uniquement le star system et le degré de popularité qui va me faire apprécier un athlète. Et bien évidemment que je vais suivre parce que je sais à quel point c'est difficile, à quel point il s'entraîne, etc. Mais je pense que dans l'esprit du grand public de manière générale, pour que une discipline soit fortement suivie, encore une fois, pas uniquement par nous, les aficionados du sport qui, quoi qu'il arrive, vont regarder parce qu'on connaît à quel point ces athlètes là s'entraînent et qui méritent totalement notre attention. Je pense qu'il y a besoin de locomotives. Alors, tu as cité Duplantis. Effectivement, on va se dire, est-ce qu'il va réaliser 6 mètres 21? Il va tenter 6 mètres 21. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Oui, on va suivre. Mais tu vois, il manque, je pense, à mon humble avis, une ou deux vraiment très grosses têtes d'affiche qui va ratisser un peu plus large en termes de personnes qui vont regarder.
Et puis le 100 mètres, c'était un événement planétaire. Pardon, mais cette nuit, c'était un événement planétaire.
Non, je pense que ça l'est encore parce que vous ne faites que référence aux personnes qui composent nos souvenirs et le sport en général. Mais vous avez oublié les amoureux des performances. Il y a des gens qui kiffent devant la télé pour je sais que le record du monde il est à 9, je sais pas combien, et ils passent en dessous, battre un record, c'est génial. Le beau geste aussi. Mais ça.
Marie, moi j'ai juste une chose. Tu ouvres la télé ce matin. Ça. En dehors des chaînes de sport, il y a d'autres chaînes qui pourraient ouvrir si ça avait été Usain Bolt qui est champion du monde du 100 mètres.
En plein milieu de la nuit, évidemment.
Oui, mais je te parle des journaux du matin. Je te parle juste des journaux du matin. Je pense que si Usain Bolt aujourd'hui gagne un énième titre de champion du monde sur 100 mètres, on ouvre les journaux avec ça. Aujourd'hui, on ouvre les journaux sport avec ça.
On n'est pas bon, mais alors je vais.
Il faut quand même des ingrédients pour dépasser le cadre. Mais on les simples aficionados d'un sport en général.
Je crois vraiment qu'on les a. On les a, donc je disais sur le beau geste. Moi, je viens d'un sport où le geste est important, où l'esthétisme est important. Il y a un esthétisme incroyable dans l'athlétisme, et ça n'a pas disparu parce qu'il n'y a plus Usain Bolt. Ça reste juste dingue de voir la minette qui court le plus vite au monde avaler comme ça le tartan. Moi, je trouve ça génial.
Tu manges moins d'images. On tape beaucoup moins. Quand tu n'as pas la star aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est à toi d'aller chercher l'information.
Alors, et
c'est
donc la star, elles vont émerger ces stars. Il y a pas de doute là-dessus, et on va apprendre à les connaître comme on a appris à découvrir les nouveaux nageurs français au dernier championnat du monde qu'on ne connaissait pas il y a 3 mois en arrière. Et puis une dernière chose, l'athlétisme, c'est les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, dans 2 ans, ils sont à Paris, ils sont chez nous. On a quand même un intérêt, je crois, à suivre l'athlétisme et à voir où en sont nos petits Français, quels sont ceux qui vont sortir de ces championnats du monde, comment on se place sur l'échiquier. Bien sûr qu'il y a encore de l'intérêt pour l'athlétisme.
Les Jeux Olympiques, c'est immuable, et là je vous rejoins, ça restera la discipline reine Jeux Olympiques.
Le 100 mètres des JO, enfin, moi j'ai des images où t'as comme le disait Simon tout à l'heure, t'as la fosse aux lions, tu les as tous alignés, t'as les flashs des photographes, t'as le stade plein, et tu sais que ça va se dérouler entre 9 et 10 secondes. Je sais pas, c'est le moment, je crois, le plus fort des Jeux Olympiques. Marie, est-ce que tu sais qui a gagné le 100 mètres aux JO de Tokyo?
Oui, c'est un Italien, Jacobs. Je ne sais pas parce que je me suis passionnée par ça, mais juste c'était surprenant que ce soit un Italien.
Au JO, ça restera toujours un événement planétaire, même les mondiaux,
qu'on soit dans une période creuse en termes de personnalité. Moi, je pense qu'il y a également quelque chose qui a trait à notre époque et au traitement médiatique, justement, la façon, l'époque dont on parle, ces mecs-là, on n'avait qu'une seule occasion, effectivement, de les voir dans l'année, ou alors fallait suivre la Diamond League sur Canal+, et fallait vraiment faire l'effort de s'y intéresser. Désormais, l'IAAF fait sa propre com. Sur Twitter, les images, elles viennent à nous. Elles ont perdu, je crois, un certain mysticisme, quoi. Je veux dire, on regardait ça comme religieusement.
C'est comme tous les sports. C'est-à-dire, t'avais un rendez-vous qu'il fallait pas manquer. Donc, effectivement, ça crée une attente. Et aujourd'hui, le sport, tu le consommes en replay tellement de fois, et tu peux. On regarde des grands prix de Formule 1 sur TikTok. Ouais. T'as même plus besoin de rester 3 heures pour regarder le grand prix de Formule 1. Tu te le fais en accéléré en 2 minutes 30.
C'est exactement ça. Il y a une surconsommation et une surmorcellisation de l'événement.
Il y a une pléthore d'offres qui fait que si t'as pas quelque chose qui émerge, très franchement, quand j'ai vu qu'on allait parler de la TTI, j'ai mis, sans mentir, près de 30 à 45 minutes. Je me disais, mais ils se font où les championnats du monde? J'avais vu que c'était la nuit, mais je cherchais. Je dis, mais
c'est la première fois que ça se passe aux États-Unis d'ailleurs.
Oui, c'est la première fois que ça se passe aux États-Unis. Et je cherchais. Je dis, mais ils ont lieu où ces championnats du monde?
Pas très connu. Même comme endroit, ça serait à Los Angeles. On serait peut-être plus attentif aussi, Eugène. Pas grand monde.
Oui, dans le fin fond de l'Oregon.
Tu vois, ça aide pas non plus.
Eugene, Oregon, c'est quand même l'endroit.
Oui.
Où ils font des Nike. C'est quand même juste un temple de l'athlète.
Ouais, tu pour vois, toi, parce que tu
moi,
connais
plus. Moi, c'est plus les noms des. enfin là où je rejoins totalement Sarah, c'est que je pense qu'aujourd'hui Usain Bolt aurait à nouveau couru et à nouveau soit battu son propre record du monde, soit fait un temps exceptionnel, serait ouvert tous les journaux ce matin, tu vois. Et c'est ça qui manque, je crois, aujourd'hui à l'athlète, au-delà effectivement que la consommation de toute façon médiatique est totalement différente aujourd'hui qu'elle était dans les années 90, ça c'est évident. Mais je pense quand même qu'une star mondiale connu quasiment de tous énormément.
Mais non, mais vous savez comment ça marche. Si Sacha Zoya il gagne son 110 mètres haies, mais bien sûr que tous les journaux vont. C'est sûr que tous les journaux vont ouvrir là-dessus. Enfin, on le sait. C'est plus une remise en question qu'on a à faire sur la façon qu'on a de traiter l'info sportive. Quand
ok,
même.
Mais je t'écoute. Il nous faut un champion du monde ou un champion français qui émerge ou une immense star qui porte cette discipline.
On parle en France, mais effectivement, hier le tenant du titre il monte pas sur la boîte parce qu'il y a trois Américains, donc. Coleman monte pas sur la boîte alors que il y a trois Américains qui font 1 2 et 3, le Carly court 9,76 aux sélections US,
9,86 hier.
9,86 hier, c'est-à-dire bon effectivement c'est l'ère moderne, hein, on a banalisé des choses qui étaient qui étaient exceptionnelles il y a encore 15 ans. Attendons, s'il tape le record du monde, il va changer de dimension le garçon quand même, hein. Et effectivement, le fait que Coleman gagne les derniers mondiaux, Jacobs, inconnu italien, gagne au jeu, Carlet maintenant, effectivement. Bon, le grand public a du mal à s'identifier. Quand il va commencer à confirmer, peut-être à Paris, peut-être encore au Mondiaux, battre un record du monde, et puis devenir l'homme à battre et tout, il faut créer des adversités. Regarde le 100 mètres féminin. Hélène Thompson, je suis désolé, c'est une divinité de l'athlétisme.
Tu as raison.
Fraser Price, qui est sa concurrente, qui a été deux fois championne olympique. Bon, il y a cette espèce de rivalité, en plus de la Jamaïque, qui produit des miracles.
Mais Fraser Price, tu sais, annoncé qu'elle irait pas jusqu'au JO de Paris.
Alors, mais peut-être, mais bon, elle est là, sauf erreur, elle est à Eugene quand même, elle est capable de la battre. C'est deux styles ultra différents qui viennent du même pays, qui encore une fois produit des miracles statistiquement si tu rapportes ces résultats à
sa population.
C'est les All Blacks en rugby, c'est ahurissant, et je pense qu'effectivement les têtes de gondole du sprint masculin ont besoin de un petit peu de temps pour construire des rivalités qui vont à nouveau, j'en suis certain, intéresser le grand public.
Mais on vous propose
chez les filles, Ating Mo aussi, hein, qui a 19 ans, qui a été championne olympique du 800 et du 4x400. Effectivement, pour les gens qui suivent l'athlète, il y a des magnifiques athlètes qui font des performances extraordinaires. Ça, vraiment, je ne discute pas du tout là. Encore une fois, les aficionados du sport, bien sûr qu'on va toujours suivre l'athlète, parce que comme tu le dis, Marie, il y a une espèce d'esthétisme, on est fasciné par ses performances, oui. Parce qu'on sait très bien que la difficulté qu'elle représente, ça c'est sûr. Mais je pense que pour à nouveau redorer le blason de l'athlète dans les plus grandes années de l'athlète, pour faire remplir des stades et des meetings, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut effectivement une ou deux très grosses stars qui amènent ce flux de spectateurs.
Internationales ou des stars françaises? Parce qu'on pourrait aussi faire on s'est mis en four à Tokyo, c'est une catastrophe, et l'équipe de France d'athlétisme va quand même pas super bien. Il y a l'arbre qui cache la forêt, enfin les un ou deux arbres qui cachent l'énorme forêt. J'ai pas l'impression qu'en plus on retape quelque chose et qu'on reconstruise dans le bon sens. Du reste, on en a parlé la semaine dernière avec K. Il y a un problème de star internationale, peut-être de représentation à l'international, comme tu disais, avec personne qui est vraiment là pour l'idée et gagner d'une course sur l'autre. Mais il y a aussi un vrai problème au niveau français, quoi. Et on sait comment ça fonctionne. On est très ethnocentré. Donc, si on n'a pas la petite star française qui va bien ou les petites stars françaises qui va bien.
Ouais, mais regarde ce qu'on parlait avec Cafessian. On a mis un petit plomb à la Fédération française d'athlétisme, ce qui a laissé des places vacantes en disant non, nous, on a mis des minima plus exigeants que ceux de la Fédération internationale d'athlétisme. Et force est de constater que pour l'instant, on a des Français en finale qui font des débuts de mondiaux quand même assez remarquables, et que finalement le choix de la Fédé, alors qu'effectivement c'est une politique sur le moyen terme, voire le long terme, est pour l'instant un choix payant.
Non, on tend vers une certaine exigence,
et
Simon,
on est en train de se créer des
non, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Bien sûr, si tu alignes les meilleurs, il y a quand même une chance qu'ils soient en finale, mais ça n'empêche pas que ça va quand même emmener les moins bons pour leur faire prendre de l'expérience.
En tout cas, on voulait vous poser cette question sur rmcsport.fr. Les mondiaux d'athlétisme, c'est à suivre évidemment avec nous, mais c'est vrai que j'ai des images. tu interrogeais l'avenir, le passé tout à l'heure. Quand je regarde dans le rétroviseur,
j'ai des images de Marie-Jo Perret qui est en train de faire le tour de piste. Enfin, c'était juste, on était debout sur le canapé.
Je parle même pas des Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, ça reste à part et l'athlé intéressera toujours lors des Jeux Olympiques. Mais les Mondiaux, moi, j'ai 2003 en tête au Stade de France. J'ai 2009 à Berlin avec ce tartan bleu, le 100 mètres, Usain Bolt qui bat le record du monde. Il y a des images qui restent. Et là,
tu te souviens pas de John Drummond disqualifié.
Je viens de parler de 2003 au Stade de France.
Ah bon, oui. I did not move.
I did not move, exactement. Donc voilà, il y a des choses qui se sont passées.
On est qu'au début, j'y sais. Là, on peut espérer qu'il se passe des choses. Tu vas être en vacances, tu vas te mettre dans le canapé, mater un peu ça avec plus d'enthousiasme et tout, ça va fonctionner.
Oui, enfin, on fait pas le débat uniquement pour m'intéresser moi, évidemment.
Non, mais
pour
tu représentes, si vous représentes certainement très bien
les débats sur Tiger Woods. Je soupçonne un petit peu que ça soit quand même tes débats, mais bon, ça, c'est de mon avis que de simple auditrice.
Ouais, c'est plaisir.
Je déteste le golf.
Oui, mais j'ai vu entre hier et aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un truc. Quand est-ce qu'on va
changer ça?
On aurait pu faire largement l'ouverture sur The Open et sur cette dernière journée magnifique avec Rory McIlroy. Sans aucun souci, mais là, à mon avis, un déficit d'auditeurs et peut-être qu'on perdrait les copains. Et on fait 1 million aujourd'hui, et je pense que là, on resterait à quoi, 15 000
Alors, et là, c'est d'avoir parlé de l'athlétisme, non plus. Tu crois que les gens ont décroché?
Je sais pas, en tout cas.
On va reparler de l'OM alors.
Le débat était important. En tout cas, dans quelques instants, on va vous parler de Thibaut Pinot. Comprenez-vous la passion autour de Thibaut Pinot? Ça, c'est notre question.
Et pour l'athlète, on a perdu Patrick Montel, mais on a gagné Aurélien Tarsin.
On n'a pas parlé du transfert de Ronaldo alors?
Non, on peut pas tout faire dans cette émission.
Il n'y a pas de transfert pour l'instant. Non, je suis désolé, mais
non. Mais non, il n'y a pas de transfert, je sais bien.
Ouais, on va en parler pendant la pub, ça va intéresser les auditeurs. À tout de suite sur RMC, sur Thibaut Pinot, notre reportage dans les GG du sport.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
11h29 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Dans une dizaine de minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous composez le 32-16 et vous venez lui raconter la vie sans aucun problème. Le 32-16, vous aussi, vous êtes des GG. 11h30, c'est l'heure du reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Sur le terrain, depuis 2 semaines, nous sommes sur les routes du Tour de France, au contact des coureurs, mais également des spectateurs. Et un nom revient inlassablement auprès des fans, Thibaut Pinot. Malgré des performances décevantes, la Pinomania bat son plein sur la grande boucle, Julien Richard.
Oui, c'est la même scène tous les matins devant le bus de la Groupama FDJ, des dizaines de supporters qui attendent que leur idole sorte.
Allez Thibaut !
Et à Lille, au début du tour, on a trouvé Yves, la quarantaine, maillot Groupama FDJ sur le dos, pancarte en carton avec écrit Pinot Forever.
Allez Thibaut !
Vous l'entendez crier devant le bus. Yves, il a posé, si on peut dire, un arrêt maladie.
Ah, mais là, je vais me faire virer.
Pour soutenir Thibaut Pinot.
Ce qu'il a de spécial, c'est que c'est un mec super humain. C'est un mec qui procure des émotions énormes. Du plaisir, il attaque. Bon, des fois, il perd et il pleure. Et le lendemain, bah, il va tout arracher pour gagner. Il a un truc en plus. Voilà, ce type-là, on se dit, bah, c'est pas le Superman de tous les jours. Et qu'il gagne, qu'il perde. Bah, moi, je suis content de le voir. Et ce petit truc-là.
Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui, t'es grand.
Au sommet de la planche des belles filles, il y a 10 jours, le fief de Thibaut Pinot, Pierre a déployé une banderole de 6 mètres sur 3 avec des amis. Il a créé le CUP.
Le collectif Ultra Pinot, hein, en référence au collectif Ultra Paris, puisque Thibaut Pinot, il est pour le PSG, donc on a fait la petite référence, même si à titre personnel, je suis pour l'OM.
Pierre a dormi sur place pour voir passer son héros.
C'est pas un coureur comme les autres, il est humain, il a eu tellement de peine, tellement de joie. En fait, Thibaut, c'est l'ascenseur émotionnel. Soit on est très heureux avec lui, soit on est très déçu, mais c'est pas un coureur qui nous rend neutre.
Même le virage des Hollandais jeudi dans l'Alpe d'Huez chantait à la gloire de Thibaut Pinot. Il y a ce côté figure romantique dans la popularité du Français, ses coups d'éclat et surtout peut-être ses images déchirantes du Tour 2019 où à 3 jours de l'arrivée, il doit abandonner sur blessure. Alors à 32 ans, on a bien compris qu'il ne sera jamais le successeur de Bernard Hinault, mais l'amour du public est intact, voire encore plus intense, comme le constate Marc Madiot, son manager à la Groupama FDJ.
Le public l'aime parce qu'il a l'image du public, hein, il a des moments difficiles, des moments de joie. Donc il colle assez bien à ce que peuvent ressentir les gens. Il est assez cabossé quand même, hein. Il a pris des cartons, donc les gens se retrouvent aussi là-dedans, quoi. Dans ses difficultés, mais aussi dans ses renaissances, dans ses victoires. C'est jamais anodin, quoi. Il est haché cash, il exprime largement, et voire même trop souvent, ses états d'âme et ses sensations. Donc il n'y a pas d'angle mort, quoi. Tout est open. C'est force et faiblesse en même temps.
Thibaut, bravo !
Premier témoin de cette Pinot-mania, ses coéquipiers.
Allez Thibaut, c'est ton année. Moi-même, je le crie souvent dans le peloton pour le faire chier.
Le Canadien Antoine Duchesne, qui fait chambre avec Pinot sur ce Tour de France.
C'est un coureur qui est vrai, c'est un coureur qui est aussi haut qu'aussi bas. C'est ça, je pense que les gens aiment voir, parce que je pense que tu peux te reconnaître à travers ces montagnes russes de coups de force et d'émotion. Moi, c'est drôle, parce que vu que j'ai une barbe, il est souvent à côté de moi, j'ai peut-être un peu le même allure. Moi, je me fais crier « Allez Thibaut », pour moi, Thibaut, il est dernier du peloton, puis j'entends « Allez Thibaut » toute la journée quand moi, je passe. C'est toujours un peu drôle, moi, à travers. Moi, j'ai jamais d'encouragement, c'est que je prends mes encouragements à travers Thibaut au long des journées, puis ça, c'est cool.
Dans l'échappée, sur l'étape d'hier, il semble retrouver ses jambes. Marc Madiot promet même du bon Pinot dans les Pyrénées. De quoi encore donner des frissons à ses fans jusqu'à la fin du tour. Richard, pour merci à Julien Richard, je le redis parce que je crois que mon micro ne marchait pas à l'antenne. Merci à lui pour ce reportage magnifique autour de Thibaut Pinot, la Thibaut Pinot mania qui continue sur les routes du Tour, lui qui a terminé deuxième et troisième hier autour de la 14e étape du Tour de France. Comprenez-vous la passion autour de Thibaut Pinot? Oui ou non? Marion Bartoli.
Oui.
Marie Martino.
J'ai cherché pour du non, mais oui.
Sarah Pitkowski.
Ah bah oui. Ouais, je la comprends.
Simon Dutin.
C'est vraiment un vicelard. Tu voudrais qu'on s'écharpe sur Thibaut Pinot, mais c'est vraiment dégueulasse. Évidemment que je comprends.
Marion, Marie, tu as essayé de chercher et tu n'as pas trouvé. Pourquoi oui? Pourtant, tu as du mal à comprendre pourquoi tous les fans de cyclistes adorent à ce point Thibaut Pinot.
C'est vrai, et je croyais même jusqu'à écouter ce magnifique reportage de Julien Richard qu'il ne restait plus que Pierre Amiche qui était...
Notre producteur qui est un fan de Thibaut Pinot.
Encore capable de mettre des ronds sur les paris en disant « Allez, aujourd'hui c'est Thibaut Pinot » et tous les jours il me l'a refait, il se lève le matin « Aujourd'hui c'est pour lui » et tout, et je me disais « Il n'y a plus que lui qui y croit. »
Aujourd'hui, ce n'est pas pour lui, hein. Je pense que même Pierrot le sait quand même.
Peut-être. Mais non, mais tu sais, après ça devient dérisoire. Raisonnable en fait. Quand tu aimes quelqu'un comme ça, tu as envie de le voir réussir ce que toi tu penses qu'il est capable de réussir. Alors je m'étais dit, bon, ses perfs sont peut-être un peu décevantes et tout, mais au final, non, je comprends parce que, un, on aime les grimpeurs. C'est d'un grimpeur. Thibaut Pinot, c'est le mec qui grimpe, qui fait qui tente, qui attaque, qui va. Il a cette façon là, comme ça, de danser sur son vélo quand il monte. Une ascension, ça dure longtemps et donc on a plus le temps de l'admirer qu'un sprinter qui est tout aussi remarquable, mais c'est très court le sprint. Alors que puis on ne comprend pas forcément bien, alors que là l'ascension et tout, le seul grimpeur, voilà, c'est le fantasme, c'est comme ça, c'est le maillot à poids, on aime ça. Il est touchant, il représente vraiment, en plus par le fait qu'il soit à la FDJ, la France, c'est François le Français, Thibaut Pinot. Il aime les chèvres, non, mais il vit très reculé, ça. Il est loin du star system. Quand il a envie de dire le dopage ça me saoule, il dit le dopage ça me saoule, tu vois il est très François le Français. Donc ça fait de lui quelqu'un de très attachant. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Si on ne rentre pas dans les détails de vélo vraiment technique et tout ça, je pense que ce sont les raisons pour lesquelles les Français qui suivent le vélo comme ma mère, suivent le Tour de France l'une année sur l'autre, aiment Thibaut Pinot.
Ok, ce coureur n'a pas besoin de gagner, n'a plus besoin de gagner.
Non.
Il a sa popularité à vie. Marion Bartoli.
Bah, totalement dans la même ligne que Marie. Alors après, bien sûr qu'il a gagné. Il a quand même gagné 3 étapes du Tour de France. Il a gagné le Tour de Lombardie en 2018. C'est quand même pas non plus, entre guillemets, l'éternel perdant qu'on va soutenir. C'est quelqu'un qui a un très haut niveau de vélo. Mais c'est vrai qu'il a totalement ce côté français du coin de la rue auquel tout le monde peut se reconnaître, tout le monde peut s'identifier. C'est pas l'immense star qui va refuser de répondre à la presse ou qui va être inaccessible. Il a ce côté, c'est le bon copain que tout le monde peut avoir à côté de lui. Quand il se met voilà, la tête dans son vélo et qu'il secoue la tête au moment où il monte ses cols, où il serre les dents, ça nous rappelle des images effectivement du bon copain du dimanche qu'on est en train de soutenir, et c'est pour ça que je pense que les gens s'identifient à lui. Et moi, j'ai quand même vu passer une image hier sur Twitter justement d'une banderole accrochée quand même à une falaise, où ça donnait assez vertige de le voir, et je sais même pas comment ils ont fait pour l'accrocher, avec Pinot répliqué sur je sais pas combien de fois, à tel point que voilà, effectivement, comme ça a été dit aussi dans le reportage, tout le monde l'encourage, tout le monde l'appelle par son prénom, comme on disait, allez poupou. Il y a cette espèce d'engouement populaire qui est parfois un petit peu du domaine de l'irrationnel, mais qui est là chaque année, c'est lui qu'on va soutenir le plus. Alors je sais pas, ça serait très intéressant intéressant de voir finalement si si un Bardet ou si si un Goudus ça leur pose des problèmes ou pas, ou si finalement ils aiment bien aussi que voilà, que Thibaut Pinot prenne, on va dire, l'amour du public et que fasse leur performance d'un côté. Je pense que ce serait une question intéressante à poser, mais il y a cet engouement du public qui est là de manière permanente. Au Danemark il a été là aussi, en Belgique il a été là aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a cette réputation sur tout le Tour de France d'aller chercher effectivement ses victoires dans l'école quand c'est difficile, quand il faut serrer les dents, parce que c'est un petit peu l'antistar, et je pense que beaucoup de gens s'identifient à ça.
Et je le disais, il n'a plus besoin de gagner, Simon, c'est-à-dire que même quand il est à 40 minutes au général, on soutient Thibaut Pinot.
Oui, alors nonobstant le plaisir que j'ai de bousiller les arguments de Marion ou Marie lorsque j'en ai l'occasion, tu vois, il faut bien que l'amour l'emporte de temps en temps. Et l'amour, ça s'explique pas, Jean-Christophe, ça ne s'explique pas. Mais... sur le site de l'INA, il y a un reportage qui date d'il y a une quarantaine d'années, à l'époque de Poulidor. Voilà, le journaliste, il voit une vieille dame qui est assise au bord de la route. Elle a une casquette de cycliste. Il y a marqué Poulidor sur sa casquette. Il dit, pourquoi vous venez suivre le Tour de France, madame? Moi, je viens voir parce que je viens voir Raymond Poulidor. Ah bon? Mais pourquoi? Et la dame répond, parce que je l'aime.
Ouais.
Elle aime Raymond Poulidor. Et le Tour de France, c'est un peu plus qu'une course cycliste. C'est un reflet de la France en été, de la France sur les routes, de la France en vacances. Et à ce titre-là, il faut pas oublier que il y a une soixantaine d'années, après-guerre, même avant-guerre, les cyclistes étaient des héros parce que tout le monde roulait à vélo. Je veux dire, on s'identifiait aux coureurs, c'était un reflet de la société, c'était des héros du quotidien. Le Tour a eu cette force de conserver, je pense, ce lien, même s'il y a toujours des gens qui te diront « Ouais, c'est un truc de plouc, le vélo, ça n'intéresse personne. » Mais non, il y a encore ce lien entre le grand public et le cyclisme. Et on a entendu Marc Madiot dans le papier, il dit il a gagné, il a perdu, il a célébré, il a pleuré. Évidemment, tu te reconnais en lui. On a tous eu des espoirs déchus dans la vie, on a tous voulu atteindre des objectifs qu'on s'était fixés, qu'on n'a pas réussi à atteindre. Et puis on est comme tout le monde, il faut se relever, il faut continuer à avancer, on a le choix, soit on s'arrête, on fait plus rien, soit on continue. Et Pinot, il est à l'image de ça, parce que dans un sport qui est ultra difficile et qui doit être tellement décourageant lorsqu'on n'arrive pas à se fixer à atteindre ses objectifs, et ben voilà, il nous ressemble, Pinot, c'est tout sauf un simple coureur.
Ok, Pinot, simple flic, simple coureur, je l'ai, merci Simon.
Quelle chute incroyable.
C'est vrai, Sarah, on lui pardonne tout, on lui passe tout à Thibaut, même quand il n'est pas dans les échappées, même quand il n'y arrive pas sur le Tour
on
de France,
qu'il y a une raison,
c'est pas grave, on attend le lendemain et on verra.
Oui, parce qu'effectivement, il a une forme de liberté, et comme le souffle Pierrot, il a une forme d'insoumission, il fait ce qu'il veut quand il veut. Et ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il veut?
Moi, très souvent.
Une grande partie des Français. On est naturellement un peu rebelles. Insoumis, c'est pas un terme un peu à la mode,
clairement,
là, en ce moment?
Clairement.
Et donc, en fait, c'est ce qui est...
Je pensais que c'était NUPES, moi, le mot à la mode, mais peut-être
insoumis
aussi.
Restons dans le sport.
Pas politique dans cette émission, vas-y.
Mais donc, je rejoins Simon, en fait, il ressemble. C'est-à-dire que... Ok, il a des objectifs, bon, il les fait pas, il repart le lendemain avec de l'humilité, même presque un peu la tête contre le mur. Je suis le seul à y croire, j'y crois, je vais y aller. Et puis il est aussi un peu comme nous, c'est oh merde, j'avais tout pour y arriver et il lui arrive que des pépins. Et c'est un peu aussi les arguments qu'on se donne facilement. Oh, j'aurais pu y arriver, mais bon, finalement, il m'est arrivé, alors je suis tombée en panne, il m'est arrivé un problème, j'ai pas pu le réaliser. En fait, il représente toutes nos excuses que nous, Français, on utilise dans notre vie au quotidien. Donc, en fait, comme tu le dis, il nous ressemble. Et je pense qu'il nous ressemble encore plus, peut-être, que, comme je disais, un Julien Alaphilippe, comme un certain Thomas Vaucler à l'époque, comme un certain Richard Virenque. C'était aussi des grimpeurs, et il y avait aussi la Virenque mania au bord des routes, Vaucler, c'était la même chose, avait ce même soutien irraisonné qu'on trouvait sur le bord des routes. Mais peut-être que Thibaut Pinot, il a ce petit truc en plus.
À quel moment les médias agissent là-dessus pour dire aimez celui-ci, regardez, on vous le présente.
Tu sais quoi?
Regarde, un Romain Bardet.
Sur le Tour de France, c'est pas une histoire des médias.
Ok, très bien, mais Romain Bardet, Il était deuxième il y a encore 2-3 jours.
Oui.
On se demandait, est-ce qu'il peut gagner le Tour de France ? Imagine, en 2019, c'était la folie.
Oui.
Si Thibaut Pinot, cette année-là, il avait été deuxième du Tour à un moment donné... Non mais Romain Bardet, il doit faire quoi pour être aimé ?
Bardet, on l'a jamais vu exploser, on l'a jamais vu pleurer. Tu vois, on n'a encore pas passé ce stade-là.
Il y a une forme de Romain Bardet. C'est-à-dire qu'il est,
il est plus froid.
Thibaut Pinot, et pas, on l'a vu pleurer. On a vu la fameuse scène en 2019 quand il pleure. Enfin voilà.
Dans la chambre d'hôtel avec Marc Madiot.
On les a ces images. On a l'impression de faire partie de ces échecs ou des moments où il lève les bras. Et là, il y a une chose sur les coureurs du Tour de France, c'est pas une histoire de médias. Parce que les gens sont au bord des routes. Ils sont au bord des routes.
C'est vraiment la personnalité.
C'était pas dans un stade. Ils sont au bord des routes. Ils les voient. C'est eux-mêmes qui se prennent d'amour pour un coureur cycliste qui va passer 5 minutes devant eux. Même pas 5 minutes.
Mais un Romain Bardet qui est un coureur incroyable, Marie.
Ouais.
Il n'est pas aimé de cette manière.
Il y a une interview de Romain Bardet dans Pédale qui fait une quinzaine de pages. Et ben, si tu la lis, je te promets qu'à la fin, tu te dis exactement comme la vieille dame, tu te dis ben lui je l'aime parce que ce qu'il te dit ça c'est assez transperçant et tu comprends mieux le personnage. Et moi je croyais que c'était un mec qui comptait gramme par gramme les graines qu'il avale, tu sais, comme les biathlètes et en fait il a l'air beaucoup plus funky que ça et il sort de l'image qu'on peut se faire à tort de qui il est.
Oui
et...
mais ça ne perce pas. Oui, je suis d'accord, il y a peut-être de fausses images.
Ça tient du domaine de l'irrationnel. Aimer quelqu'un ou pas aimer quelqu'un, c'est vraiment un choix personnel. Ça tient parfois à l'irrationnel. Tu n'as même pas forcément d'explication totalement logique à ça.
Et puis Pinot, dans le peloton, tu sais, pardon, Marion, je te coupe, parce que je sais faire des croix et tout, donc j'aurais pas le temps de le dire. Et pourtant, je crois que c'est important aussi. Pinot, sa façon de pédaler, le fait qu'il soit plus grand, qu'il soit en bleu, blanc, rouge, il est hyper facilement identifiable dans le peloton. Tu le vois, vous ferez l'expérience, tu le vois tout de suite.
Ouais, forcément, d'ailleurs, il y avait un coureur de la FDJ qui le disait très bien.
Qui lui ressemble avec
Antoine
sa barbe.
Moi, on m'appelle Thibaut, on me confond avec Thibaut, mais je laisse dire parce que comme ça, j'ai l'impression qu'on me soutient, ce qui est magnifique.
Oui, mais ils se ressemblent.
Et pour finir, il y a la
non, mais après, je pense pas que Romain Bardet, il va s'inventer un personnage juste pour être aimé. Tu vois, je pense que chacun sa personnalité, chacun a envie de s'exprimer
de la manière dont
il a envie de s'exprimer. Et voilà, mais chacun a le droit d'avoir une personnalité différente et de s'exprimer de manière différente. Je pense que si tout le monde faisait exactement la même chose, ça serait aussi pénible. C'est parce qu'il sort un peu du lot que les gens l'aiment aussi, Thibaut Pinot.
Et il y a la relation quasi filiale avec notre ami Marc Madiot qui lui aussi est un personnage et qui voilà, on a tous en mémoire les hurlements de Marc Madiot quand il gagne au Tourmalet. T'es immense et effectivement voilà, on aime cette relation, il l'a toujours protégé contre vents et marées et je pense que ça contribue aussi à l'amour qu'on
Thibaut Pinot qui poursuit le Tour de France. Et Marc Madiot nous l'a dit hier à notre micro, on va peut-être voir du grand Pinot dans les Pyrénées. On l'attend.
On l'attend, c'est vrai.
On se retrouve dans quelques instants pour les GG et vous. C'est à vous de jouer, chers auditeurs. Le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui régler son compte. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport avec Marion Bartoli. Ce matin, Sarah Pitkowski, Marie Martineau, Simon Dutin et vous, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire en face à face, vous composez le 32-16. Alexandre nous appelle au 32-16. Bonjour Alexandre.
Salut JC, salut tout le monde.
Salut Alexandre. Salut
Alexandre, tu veux te frotter à qui ? Tu veux affronter qui ?
Je veux affronter Simon.
Ah non !
Sur quel débat ?
Sur le volley-ball.
D'accord. Alors le volley, je rappelle l'information pour tous ceux qui nous prennent en cours. Sachez que c'est dans les tuyaux et c'est en bonne voie. L'équipe, et vous ne rêvez pas, hein, je vais vous dire un truc, c'est vrai, promis, c'est pas un canular. L'équipe masculine nationale de Chine va participer au championnat de France de volet, et il était plutôt pour Simon.
Je suis fort debout contre ce projet.
Il est plutôt pour Alexandre, vas-y, il est à toi.
Bah moi je suis contre de manière absolument catégorique, et l'argument avancé par Simon pour être pour, qu'il a dit l'intérêt principal c'est l'intérêt financier, on est tous d'accord avec ça. L'intérêt principal de l'opération c'est l'intérêt financier. Ça me fait penser à d'autres sports. En football, ils ont intégré des équipes asiatiques à la Copa América, qui est l'équivalent de l'Euro en Amérique du Sud. Au rugby, ils vont intégrer des franchises d'Afrique du Sud à la Coupe d'Europe, des clubs. Si le volley veut se hisser au même niveau de notoriété, de puissance que ces deux sports-là, c'est pas en copiant leurs bêtises qu'ils vont y arriver.
Dis-moi, Alexandre, tu viens d'où?
On s'est croisés, d'ailleurs,
j'en profite, j'étais intervenu dans cette émission et j'ai été déçu de pas avoir le podcast parce que ça m'aurait fait plaisir de faire partager à mes proches.
Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé où est-ce qu'on pouvait retrouver cette émission.
Il rentrait dans aucune case.
Bon. Sache que, Alexandre, des têtes vont tomber. On va pousser qui de droit au parmesan et on va mettre ce podcast à Wallers sur les routes du Tour de France, c'est promis.
Effectivement. Pour répondre, effectivement, mais moi, encore une fois, Alexandre, c'est parce que je suis désespéré de la situation du volley en France. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, spontanément, j'étais contre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans notre championnat? La sélection chinoise, en plus, c'est pas un club, c'est une sélection. Tu parlais du rugby, ça reste des clubs qui viennent se frotter à des clubs européens. Mais moi, encore une fois, c'est ce que j'ai demandé à la fin de l'interview à Yannick Bazin. C'est quoi la solution? Il faut que ce sport se développe. Ce sport mérite de se développer, mérite une meilleure exposition, mérite des meilleures salles, une meilleure affluence. Comment fait-on?
Quitte à passer par des actions qui quand même un sacré non-sens, quoi.
Non,
sélection
mais alors,
club, quoi. Sélection club, déjà rien que ça.
Oui, voilà.
Déjà aux enfants, c'est d'expliquer que le PSG, c'est pas la capitale de Paris, et que Paris, c'est pas. Enfin, tu vois, il y a des choses qui. Et là, t'es en train d'expliquer que la Chine va jouer un championnat de France.
Je suis d'accord.
Valenciennes, j'en sais rien.
Si la Chine gagne le championnat de France, ils ne seront pas champions.
Ils seront pas champions.
Non, mais je suis d'accord. Au fond, c'est ahurissant et c'est la pire des bonnes solutions pour le volley. Mais si, encore une fois, ça passe par là pour que le volley se développe, bah je suis désolé si personne n'apporte d'autres solutions. Je me dis pourquoi pas essayer.
Voilà. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté ton argument sur ce débat volley. Un débat que vous pouvez retrouver d'ailleurs en podcast. N'en déplaise à Alexandre. Si c'est promis, là, il est déjà en podcast. Vous pouvez y aller pour écouter les arguments des autres GG sur ce dossier volley. C'était donc à 10h. Philippe nous appelle au 32-16. Bonjour, Philippe. Philippe, tu veux affronter qui, Philippe?
En fait, je voulais remercier Marie, Martino, et puis dire deux mots sur JC, la remercier pour avoir.
Merci Philippe, au revoir, à bientôt.
On est toutes oui.
Ah oui, c'était quoi?
C'était par rapport à la hard rock que tu ne voulais pas aborder, que vous ne vouliez pas aborder ce matin. Pour vous en dire deux mots un petit peu plus quoi sur cette course qui en fait fait 160 km et c'est des vrais athlètes qui ont gagné. Kylian Jornet est devant François Daen, c'est 160 km non-stop en montagne. Il y a 10 000 de dénivelé positif. En fait, lorsqu'on parle de, si je devais faire une comparaison, mais ce n'est pas une, avec le Tour de France, lorsqu'ils arrivent à 2400 mètres d'altitude, on dit c'est la haute montagne, ils ont des difficultés. Mais là, l'altitude moyenne de cette course est à 3000. Et le passage max est à 4200 mètres d'altitude. Donc c'est pour ça, c'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est 21 heures d'effort non-stop. Et jusqu'à 16 km de l'arrivée, ils tiraient la bourre. Il n'y en avait aucun qui était devant l'autre, quoi. Ils étaient ensemble. Donc c'est pour ça, je voulais dire un petit peu plus sur l'hard rock et sur l'ultra-trail de manière générale, quoi. Parce que c'est un sport dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est dommage.
On était tous d'accord, hein, JC manque de respect à certains sports, mais c'est
dommage. Alors par contre, s'il veut se faire se rattraper un petit peu, JC, je suis organisateur du Loser Trail et de l'Ultra Trail. Et donc, s'il souhaite, il y a 5 distances, il n'est pas obligé de faire le 106 km, mais il y a une nouvelle distance en 2023 qui fait 28 km avec 1900 de positif. Ça serait une magnifique manière de se récupérer, non?
Mais 28 km, JC, mais c'est pas possible.
Alors, plusieurs choses, Philippe, parce que j'ai une image de dandy. Et ça va pas du tout, Philippe.
Je veux juste
savoir s'il y a un hébergement 5 étoiles.
Je dois pouvoir trouver ça.
Et la deuxième, oui, est-ce qu'on peut le faire en voiturette de golf?
Voilà, Philippe,
à 2,8 km, il peut y arriver.
Attendez, vous vous moquez beaucoup. Je suis ultra fit en ce moment. Les 28 km, c'est avec grand plaisir que je réponds à cette invitation, Philippe. On reste en contact. Tu donnes ton numéro au standard. Amina, là, qui est avec nous. Alors, et avec là, grand plaisir, Philippe, merci pour cette proposition. Et comme ça, je répondrai à ces enquiquineurs de GG qui me prennent pour un Parisien bourge qui ne fait jouer qu'au golf. Ok ? Même si j'adore le golf, c'est vrai.
Et tu as presque un an pour t'entraîner parce que ce sera le 28 mai l'année prochaine. Donc c'est bon, quoi. Il y a...
28 mai, je suis ton homme, Philippe. Ok ? Je prends le pari. Avec grand plaisir.
Oh, ça, c'est sûr, je vais mettre un petit rappel sur mon téléphone.
Merci d'avoir proposé le 32-16. Et j'ai Jean-Louis Tour qui m'envoie à l'instant un message. Jean-Louis Tour en vacances, qui est l'animateur de Rotten sans flamme. On fait ça ensemble, les 28 kilomètres. À mon avis, c'est l'hôtel et l'hébergement 5 étoiles qui...
ouais. C'est ça, on a talent.
La course, ça peut intéresser ça beaucoup, peut-être, ou notre ami... Je... Ouais.
On fait ça entre stars.
Sympa.
Ça va, on rigole. Karine est avec nous. Ah. Karine, c'est Jean-Christophe Drouet sur RMC Le Dandy. Bonjour, Karine.
Bonjour à vous.
Karine, est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle?
Il me semble un petit peu.
Allez là.
Mais bon, j'ai du mal à...
Tu as gagné, Karine.
Karine, tu as gagné deux places VIP pour le Grand Prix de France la semaine prochaine. Bravo, Karine.
C'est génial.
Tu vas les offrir, tu vas les garder pour toi.
Mon mari, il est fan de Fernando Alonso, donc là, il n'en peut plus.
Ah. Passe-moi ton mari, Karine. Passe-moi ton mari. Bonjour Marie, comment tu t'appelles ?
Thomas.
Thomas, c'est bien ça ? Je t'entends crier Fernando depuis tout à l'heure.
J'adore Fernando, c'est un rêve là, c'est terrible.
Tu es content ? Vous habitez où avec Karine, Thomas ?
En Charente, au sud d'Angoulême.
Ok, bon, ça fait une petite trotte pour aller sur le Grand Prix du Castellet, le circuit Paul Ricard, mais vous y allez, vous êtes disponible la semaine prochaine.
Aucun problème, avec plaisir.
C'est incroyable, hein. VIP avec Alpine. Vous allez vraiment vous régaler en loge. Bref, ça va être incroyable. Et c'est pour nous, c'est pour les grandes gueules du sport. Bravo Karine et Thomas.
Un grand merci à vous et continuez comme ça. C'est super, on adore.
Amusez-vous. Génial. Et je sens l'émotion. Et donc on est très heureux, c'est un beau cadeau pour l'été.
On espère que tu remercieras
ta femme. Régalez-vous Karine et Thomas. Merci d'avoir été avec nous. Marie Martineau,
j'ai rien
vous
entendu.
Merci Marie.
Vous êtes
en vain.
Je parle. Mario Bartoli, merci. Sarah Pitkowski également. À bientôt dans les grandes gueules du sport et bon courage évidemment.
Je vous attends au stade.
À la fédération de tennis, la finale du padel.
Greenwich, Paris, premier major
de padel.
Exactement.
Merci Sarah, merci également à Simon Dutin.
Merci JC, bonnes vacances.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis toute la saison. Je vous embrasse très fort. Merci à toutes les GG d'avoir été si merveilleuses. Cette émission est un carton. Plus d'un million d'auditeurs le samedi, le dimanche. On est ravis d'être avec vous. Officiellement, la prochaine saison débute le samedi 20 août. On se retrouvera à ce moment-là. Mais les grandes gueules du sport continuent tout l'été avec Simon Dutin à la présentation à partir de la semaine prochaine et début août, l'incroyable également avec nous, François Pinet. 11h57, tout de suite les Paris RMC, je vous embrasse très fort.
Ciao.
À tout de suite.
Ciao.
Midi 13h,
les Paris RMC.